RMC.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Ici c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zygotomatique de Mac.
After Marseille.
Simon Dutin.
Bonjour tout le monde, After OM, le dernier numéro tout chaud qui sort juste du studio. Une demi-heure pour évoquer ensemble l'actualité du club marseillais. Elle a été marquée évidemment par les suites de la petite colère du président Longoria le week-end dernier après la défaite de l'OM 3-0 sur la pelouse de l'AJ Auxerre. On en parle aujourd'hui avec Rémi Dumont de la rédaction RMC Sport et Alexandre Jacquin, notre confrère du journal La Provence. Bonjour messieurs.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour. Bonjour à tous.
Ravi d'être avec vous, messieurs, je le disais, pour revenir sur une semaine. Alexandre, les semaines sont rarement calmes lorsqu'on suit l'actualité de l'OM, mais certaines sont encore moins calmes que d'autres.
Celle-là, on l'avait pas vu venir. On pensait pas que sur un match qu'on pensait, je parle pas en termes sportifs, mais je parle en termes de suivi. On pensait pas que le Auxerre OM allait générer. On craignait plus ces incidents. D'ailleurs, il y en a eu, mais on pensait pas que ça allait générer un tel scénario rocambolesque. Et alors celle-là, c'est vrai que celle-là, on l'avait pas vu venir. On sentait qu'il y avait de la tension quand même, mais. Mais on ne pensait pas que ça allait déraper à ce point. Et c'est sûr, quand on est suiveur de l'OM depuis des années, bon, plus de 10 ans, on en a vu, on en a revu. Donc après, il n'y a plus rien qui nous étonne vraiment, en fait, dans ce club.
Alexandre Jacquin, notre confrère donc, de la Provence, qui a le cuir tanné, donc, évidemment, par les années d'actualité de l'OM. Mais c'est vrai que bon, cette défaite 3-0, elle a surpris au plan sportif. Mais on a moins parlé du sportif, en effet, que des coulisses, puisque Rémi, on va rappeler, pour ceux qui étaient sur une autre planète la semaine dernière, cette
Marseille.
Semaine, ce qui a provoqué autant de folie médiatique autour de l'OM.
Samedi 22 février, stade Abbé Deschamps, 63e minute de jeu entre Auxerre et Marseille. Les Auxerrois mènent alors 1-0. Cornelius, le défenseur de l'OM, tente une intervention défensive sur Traoré, mais va heurter dans son élan l'Auxerrois. À la hanche, l'arbitre, M. Stinat, lui adresse un second carton jaune après un premier adressé en première période. Cornelius est donc exclu. L'OM crie à l'injustice. Marseille finit le match à 10 contre 11 et surtout par une lourde défaite 3-0. Après le match, Pablo Longoria est furieux et déclare en zone mixte.
C'était tout préparé. Ça, c'est de la pré-corruption. Vous pouvez dire, Pablo Longoria l'a dit, ça, c'est de la pré-corruption. C'était tout orienté depuis les cartons à Valerdi. Tout orienté pour ces matchs. Tout orienté.
Alors, on précise que le président marseillais s'exprime alors pas devant un micro identifié. C'est à chaud.
En zone mixte.
Et ce sont les micros des médias qui traînent un petit peu et qui captent évidemment la séquence. C'est la folie qui s'ensuit. Le président délégué marseillais qui a rapidement rétro-pédalé quand même.
Deux jours plus tard, le lundi 24 février, via l'AFP, le président de l'OM revient sur ses propos du week-end et déclare qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. Mercredi 26 février, deux jours plus tard, donc Longoria est convoqué par la commission de discipline de l'AFP et écope d'une sanction de 15 matchs fermes de suspension avec effet immédiat. Il est interdit de toute fonction officielle et d'accès aux bancs de touche, aux vestiaires des joueurs et des officiels, au terrain, au tunnel et à l'ensemble des couloirs menant à ces zones. Sa suspension prendra fin la saison prochaine à l'occasion de la 5e journée de championnat aux alentours du 20 septembre.
Bon, reste à connaître le calendrier et connaître l'adversaire donc ce soir-là de l'OM. Avant de revenir sur le fond, on en a évidemment parlé à Paris, à Marseille, dans toute la France et même un petit peu au-delà des frontières. Alexandre, est-ce que toi, au moment où tu as connaissance des propos de Longoria, ta soirée se transforme? Raconte-nous un petit peu comment tu les as reçus.
Bah, disons que là, à ce moment-là, je me dis il aurait dû être retenu. Enfin, vous voyez, il aurait dû avoir des membres de l'encadrement de l'OM autour de lui qui auraient dû le calmer, qui auraient dû lui dire « Pablo, tu vas trop loin ». Parce que même il le sait aujourd'hui qu'il est allé beaucoup trop loin, il sait qu'il a commis une erreur, il sait qu'il a pété un plomb. Mais c'est le fruit de plusieurs semaines de frustration, de cette injustice, d'erreurs, parce qu'il y a eu quand même des erreurs, d'erreurs, mais l'erreur est humaine. Et le hic, c'est que Pablo Longoria disjoncte sur un match où les erreurs ne sont pas manifestes. Mmh. Sont pas, franchement, il y a un vrai débat. Moi, je suis désolé, mais moi, pour moi, il n'y a pas pénalty. Et pour moi, l'expulsion de Cornelius, enfin, le second carton jaune de Cornelius,
il est
légitime. Voilà, il n'y a rien de scandaleux. Mmh. Et je pense aujourd'hui que dans le club, tout le monde dit que oui, c'est vrai que finalement, bon, tout le monde s'est excité pour rien. Le problème, c'est que le timing est cataclysmique. Mmh. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas que l'OM qui a de quoi se sentir lésé par l'arbitrage cette saison. On en a vu d'autres, des erreurs. Les erreurs sont humaines. On pense que le RC Lens aussi a de quoi se sentir lésé. Il y a d'autres clubs aussi en Ligue 1 qui peuvent avoir de quoi râler. Et le timing du pétage de plomb de Longoria, sur le fond, évidemment, tout est condamnable, mais le timing est absolument pas bon, parce que ce soir-là, à Auxerre, l'OM fait un match catastrophique aussi, quoi, comme au match aller. Et puis bon, on a l'impression presque que c'est... On oublie ce match-là, mais l'OM ne méritait absolument pas le match nul, quoi. Je veux dire, l'expulsion de Cornelius, le second carton jaune, il n'est pas scandaleux. Mmh. Pour moi, il n'y a pas pénalty en première période. Donc voilà, c'est la soirée cauchemardesque de A à Z pour l'OM. Et c'est vrai que nous, on avait nos envoyés spéciaux sur place. On avait un qui était justement à côté de Pablo en zone mixte quand il a continué à disjoncter. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? Il y aura forcément un avant et un après. Il y aura des sanctions, même si, comme je le disais, la sanction... En France, pour les dirigeants, elle est un peu symbolique quand même, parce qu'ils sont quand même, au stade, ils sont quand même en tribune. Oui. Après, le problème qui se pose pour Longoria, c'est qu'il est quand même au conseil de la LFP. Et quand on est au conseil d'administration de la LFP, qu'on essaie de peser justement dans les décisions du championnat du football français, on ne peut pas se permettre de dire que c'est un championnat de merde. Forcément, ça aura des répercussions pour la suite. Mais il le sait.
Il le sait, évidemment, et c'est pour ça qu'il a évidemment rapidement aussi sorti l'extincteur. Alexandre, sans rentrer dans les détails, parce que Rémi va nous les compiler dans un instant, est-ce que malgré la gravité, l'outrance des propos de Pablo Longoria, est-ce qu'il reflète un sentiment partagé à Marseille par les supporters de l'OM au sujet de la façon dont l'OM est arbitré ? Tu as rappelé qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir le penser, mais est-ce que c'est un sentiment général ?
Mais il y a un vrai sentiment d'injustice. Il y avait, comme chaque année, comme dans tout club, c'est pas du clubisme, mais tout club s'estime un peu lésé par des décisions d'arbitre. Par contre, il y a un vrai sentiment d'injustice depuis la sanction prononcée contre Mehdi Benatia après OM Lille. Quand il y a eu ce mini incident, enfin c'est même pas un incident, quoi, Lille en Coupe de France et qui prend 3 mois de suspension, quand Olivier Létang, lui n'en prend un et qui a une attitude un peu plus virulente. Ouais. Et là c'est vrai que un peu plus véhémente. C'est vrai que ce soir, là, sur ça, il y a un vrai sentiment d'une frustration, de se dire, mais l'OM n'est pas jugé comme les autres, et là, Mehdi Benatia n'est pas jugé comme les autres. Il y a eu quelques erreurs dans la saison, mais après. On dit toujours ça s'équilibre à la fin. Les supporters, ils supportent plus. À Marseille, les supporters, ils veulent plus entendre cette phrase. Ils disent que c'est pas normal. Puis après, il y a aussi ce truc qu'à Marseille, on essaie toujours de cultiver ces Marseille contre le reste du monde. On nous en veut. Il y a un sentiment de paranoïa qui est diffusé parfois. Alors, c'est même pas que cette saison. Ça arrive souvent. Hein. À l'époque de José Anigo, c'était tout le temps ça. C'était la paranoïa. C'était on nous en veut. On veut pas qu'on réussisse. On est Marseille. Tout le monde est contre nous. Il faut pas non plus exagérer. Quoi. Voilà, c'est l'exagération marseillaise là je trouve, voilà, sur ce match là ça s'est vraiment vu et je vais le défendre là, et je trouve que ce pauvre Pablo Longoria, il faut pas oublier que c'est un président jeune. Il a que 38 ans. Il a une énorme expérience du football, il a une énorme expérience des transferts, du mercato, des coulisses. Mais par contre, il y a une pression monumentale à Marseille. On n'est pas président de l'OM comme on est président de Reims, ou, sans manquer de respect à ces clubs-là. Il y a une pression monumentale et il ne faut pas oublier qu'il a que 38 ans et qu'il n'a pas l'expérience non plus pour... il va l'acquérir, parce que je pense que ce sera un solide dirigeant du football mondial dans quelques années. Mais... il est encore jeune, voilà, et il a disjoncté, comme ça peut arriver à tout le monde, conditionné aussi par le fait que les supporters se sentent lésés. Dans le club, tout le monde se dit lésé, les gens vont lui montrer les images autour de lui, il dit regarde Pablo, mais à un moment... Pour moi, je suis désolé, les images, je les vois nous aussi. Enfin, imaginons que c'est Greenwood qui prend le coup de Cornelius. Ah oui, c'est involontaire, mais s'il lui brise les reins, c'est déjà arrivé dans le football, ça. Qu'est-ce qu'on dit à la fin ? Oui. Enfin, il n'y a pas scandale sur cette expulsion. Quoi.
Voilà, mais un président, voilà, un président supporter, un président passionné. Voilà, passionné à l'image, évidemment, de ses supporters. Un président qu'on avait senti déjà très agité dans les tribunes durant la rencontre. Rémi, quelles sont les décisions arbitrales sur le terrain dont l'OM est fondé à se plaindre cette saison ?
Alors, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Deuxième journée, Marseille-Reims 2-2 au final, un pénalty non sifflé sur Amin Harit pris dans la surface en sandwich par deux défenseurs. Quatrième journée, Marseille-Nice, victoire 2-0 de Marseille, mais expulsion de Cornelius pour un deuxième carton jaune pour du gain de temps. Neuvième journée, Marseille-Paris, victoire 3-0 de Paris, carton rouge pour Amin Harit dans un choc avec Marquinhos, mais Amin Harit explique ne pas voir arriver Marquinhos. Il y a aussi eu le Marseille-Lille en championnat avec une faute dans la surface de Gudmundsson sur Pierre-Emile Højbjerg. Il y a aussi eu la main sifflée de Murillo lors de Rennes-Marseille et ce sera un pénalty du coup accordé à Rennes. Et puis il y a surtout eu le sixième tour de Coupe de France avec le match, enfin la défaite, l'élimination de Marseille au tir au but, mais surtout un fait de jeu dans le match, c'est le contact entre Jonathan Rowe et Alexandro non sifflé. Et évidemment, le carton rouge de Mehdi Benassia lorsqu'il parle avec Jérémy Stinat, quatrième arbitre à ce moment-là de la rencontre.
Évidemment, alors bon, lorsque on les accumule, ça peut faire beaucoup. Alexandre, rappeler que bon, bah, tous les clubs, évidemment, hein, ne retiennent que les décisions qui vont contre leurs intérêts. Alexandre, Rémi, je vous pose la question. Le carton rouge de Harit, il y a un effet de loupe parce que c'était le classico. Il est symptomatique, j'ai envie de dire, d'un débat qui est impossible à trancher. On est parisien, on voit la marque du crampon sur Marquinhos, on est scandalisé. Et à l'inverse, on est marseillais, on a envie de défendre Harit. Bon, ça reste de l'interprétation. À un moment donné, ce débat, il est impossible à tenir. Nous, dans les rédactions, on est obligés de le faire, mais on compile, mais finalement, c'est insoluble.
Moi, je te dirais que c'est un cercle vicieux, parce qu'en fait, plus il y a un effet grossissant sur le match, comme tu disais pour le classique entre Marseillais et Paris, plus en fait, ça met de la pression sur les arbitres, un climat de tension qui fait que chaque interprétation de l'arbitre va être justement interprétée de plusieurs façons. Et donc, du coup, ça ne met pas en confiance l'arbitre, ça met sous tension les joueurs, les supporters, les dirigeants. Donc forcément, derrière, pour ressortir de cette situation-là, c'est compliqué.
Moi, après, il y a un truc qui se passe aussi à Marseille, c'est que sur ce mot pour moi, le carton rouge pour Harit, bon, il n'y est pas. Mais est-ce que ce fait de jeu-là change le cours du match ? Voilà, parce qu'en fait, à la fin des matchs, on a des supporters qui vont nous parler que de l'arbitrage. J'ai l'arbitrage, j'ai l'arbitrage, j'ai l'arbitrage. Mais excusez-moi, mais on a le droit de perdre des matchs aussi dans le football, quoi. Et en fait, sur ce soir-là, sur cette expulsion de Harit, ça change pas le cours du match. Le PSG est largement supérieur, le PSG a mérité sa victoire. On peut être supporter de l'OM, on peut être suiveur de l'OM comme moi. Il faut se rendre à l'évidence aussi quand l'OM passe à côté et quand l'OM n'est pas au niveau. Donc on va pas chercher. Le problème, c'est toujours d'aller chercher une excuse. Sur, on a perdu deux points parce que l'arbitre. On a à la fin, on n'est finalement pas qualifié en Ligue des Champions parce que l'arbitre. Non, enfin, oui, de temps en temps, il y a des erreurs, évidemment. Mais quand même, faut pas non plus tomber dans l'excès. Et le souci, c'est qu'à Marseille, on tombe trop souvent dans l'excès.
Alexandre, je peux pas te laisser dire ça.
Non, mais étant Marseillais, ayant 43 ans et ayant vécu toute ma vie à Marseille, je peux le dire, on tombe trop souvent dans l'excès. Et Pablo Longoria, il s'est laissé griser par ça aussi, par cette ferveur, par cette passion. Et là, il est tombé dans. Là, on a vu ses excès à lui. C'est-à-dire qu'il a disjoncté, il a pété, il est devenu incontrôlable, alors que bon, ça ne reflète pas sa personnalité habituelle.
Ouais. J'imagine que sur les terrasses des cafés, bon, il a dû continuer à marquer des points, non, chez les habitants marseillais. On imagine que ça peut que, à Marseille en tout cas, améliorer sa cote de popularité, non ? C'est un des nôtres, j'ai envie de dire.
Il y a deux lectures. Il y a la lecture de ceux qui iront jusqu'au bout et qui, quoi qu'il advienne, même si l'OM est un jour avantagé par erreur, qui est là aussi humaine, diront que l'arbitre n'est pas avec eux. Ça, et donc ça, ceux-là, ils se disent que Pablo, c'est encore... Il a déjà une cote d'amour assez exceptionnelle à Marseille, et là pour ceux-là, c'est carrément devenu un héros. Puis à ceux qui se disent, bon, il ne faut pas non plus aller trop loin, et ça commence à faire beaucoup pour l'image de l'OM. Mais Par contre, ça ne remet pas en cause la popularité, la sympathie que les supporters ont pour lui. C'est-à-dire que lui, il est adulé à Marseille quand même. Tout le monde l'aime bien et tout le monde l'excuse là. Il faut être clair, mais tout le monde l'excuse. Et d'ailleurs, je trouve que même quand on voit les débats chez les consultants, il y a quand même ce truc de se dire, il fait du bon boulot à Marseille. Il fait du bon boulot, même si le club n'est pas stable, mais il fait quand même du bon boulot, il ramène des bons entraîneurs, de bons joueurs. Évidemment, tous les 6 mois, tous les 1 an, il y a du changement, c'est sûr, mais il fait quand même du bon boulot, et personne n'oublie ça. C'est sûr que si Jacques-Henri Hérault avait pité les plombs comme ça, tout le monde aurait dit, mais il nous ridiculise, lui, qu'est-ce que c'est ouais. Là, on a Alex, un président qui fait du bon boulot, oui.
Ouais, excuse-moi, je me permets, mais est-ce qu'il n'y a pas en fait un sentiment d'identification des supporters envers Pablo Longoria plus qu'envers les joueurs? Parce que comme tu le disais, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, qui repartent. Longoria, lui, c'est lui qui est là depuis plus longtemps, limite dans l'effectif. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi identitaire qui fait que Pablo, c'est Marseille.
Après, la star à Marseille, c'est Longoria en ce moment. Enfin, ça fait 4 ans qu'il est là. Il y a des joueurs exceptionnels qui sont passés. Alexis Sanchez, des entraîneurs exceptionnels. Sampaoli, De Zerbi, c'est aussi un entraîneur exceptionnel. Mais quand même, la star, celui dont tout le monde parle à Marseille, chez les supporters, ça reste Pablo Longoria, parce qu'il y a toujours cette frénésie qui fait dire aux supporters, au moment où va arriver le mercato, qu'est-ce qu'il va encore nous sortir comme surprise. On le voit même maintenant, avec Gouiri et Bennacer. Tout le monde s'est dit, oh là là, mais il n'y aura rien au mercato d'hiver. Et il y a un engouement sur Gouiri et Bennacer. Il y a aussi Benatia au milieu, disons qu'on sait qu'il est capable de tout sur le mercato, d'aller chercher des joueurs assez exceptionnels. C'est pour ça, Rabiot, on l'a vu évidemment, c'est pour ça qu'il bénéficie de cette cote de popularité immense. Et je vais dire, je vais être un peu chauvin, je vais dire mérité. Donc en fait, cet écart-là, tout le monde lui pardonne à Marseille.
Et est-ce que tu n'es pas en train de dire qu'à Marseille, il y a la bonne mère, et puis le bon père, c'est Pablo Longoria du coup?
Non, mais là aussi pareil, je parle d'excès, j'exagère peut-être un petit peu, mais il est quand même. Enfin, je veux dire, si demain Franck McCourt décidait de se séparer de Pablo Longoria, les supporters créeraient un scandale.
Ils diraient,
mais pourquoi? Mais pourquoi? Bon, à moins que derrière il y a autre chose, mais ils diraient, mais pourquoi il mérite pas ça? Un peu comme à l'époque quand Pape Diouf était parti. Je compare pas les deux, parce que Pape Diouf n'aurait jamais pété un cap comme ça, mais alors pas du tout. Mais disons qu'il a une cote de popularité, Pablo, à Marseille.
La star de l'OM, à l'heure actuelle, c'est Pablo Longoria. C'est la phrase qu'on va retenir, elle est assez évocatrice en effet du travail accompli par le président, le jeune, tu le rappelais, président espagnol de l'OM. Messieurs, je vous pose la question parce que évidemment tout est déjà pardonné pour ceux qui auraient pu lui en vouloir, il est adulé plus que jamais. Est-ce que à l'inverse, c'est pareil, on s'est posé la question toute la semaine, de Longoria, elle peut avoir des conséquences négatives sur la saison de l'OM?
Moi, je pense pas. Je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais je pense pas dans le sens où justement, quand tu écoutes Alex, tu te dis qu'il est déjà pardonné et que quelque part on va passer à autre chose. Et puis c'est surtout, ça va renforcer, je pense, l'union sacrée autour de l'OM, en tout cas des supporters avec les joueurs et les dirigeants. Et puis juste une petite stat comme ça, mais cette saison, toute compétition confondue, Marseille, c'est 6 défaites jamais 2 d'affilée. Donc c'est-à-dire que quand Marseille perd, derrière, soit ils font match nul, soit ils gagnent. Donc c'est de bonne augure pour Nantes, mais voilà, Marseille a toujours su se relever de défaites ou, on va dire, de matchs très houleux.
On va parler de la suite, évidemment, et du calendrier qui attend l'OM et ce match face à Nantes. Alexandre, tu es d'accord, évidemment? Bon, finalement...
Je suis d'accord. Le seul bémol que je vais trouver, c'est que voilà, il faut... Enfin, moi, je suis personne, je suis journaliste, mais je pense que ce serait pas inintelligent que l'OM fasse un petit appel aux supporters et un appel au calme. Parce que le problème, c'est que si dans les prochaines semaines, alors heureusement qu'il n'y a pas un OM-PSG, que c'est plutôt un PSG-OM qui arrive, mais si dans les prochaines semaines, on ne sait pas, si par malheur, on en a vu plein dans les stades, si par malheur un arbitre de touche, par exemple, est touché par un projectile au Vélodrome, alors là, je ne vous dis pas le cataclysme. Je veux dire, ça peut, c'est quelque chose qui malheureusement est déjà arrivé. Bouteille, on a vu sur Dimitri Payet, on a vu d'autres. C'est un cataclysme. Et là, tout le monde va dire, mais c'est la faute des dirigeants parce qu'ils ont excité tout le monde. Donc c'est pour ça que je pense que les supporters doivent se montrer raisonnables. À un moment donné, là, je pense que dans le club, tout le monde se dit ça. Ils se disent, maintenant, plus personne ne va pouvoir parler de l'arbitrage, vu que deux herbistes après-midi, justement, a dit, c'est terminé, moi, je ne parle plus d'arbitrage. Donc, plus personne ne va parler d'arbitrage. Il faut une union sacrée entre tout le monde, pour plus qu'il y ait d'incidents, pour plus qu'il y ait de dérapages. Se dire que s'il y a une grosse erreur, eh ben, ouais, malheureusement, ben, cette fois, plus personne ne pourra parler. Quoi. Mmh. Ouais, il faut, c'est juste que voilà, tous les jokers sont grillés. Avec cet incident-là, a fait griller tous les jokers.
Alors justement,
là où, ils auraient pu poser, ben c'est terminé là, ils peuvent plus rien dire.
Évidemment, évidemment. Roberto De Zerbi était en conférence de presse ce vendredi, en prélude hein, de la rencontre face à Nantes, qui va clôturer dimanche soir la 24e journée de Ligue 1. Je vous cite l'entraîneur italien. La suspension de Longoria. Je suis toujours proche des personnes de ma famille, ils font partie de ma famille, comme mes joueurs et toutes les personnes de ce club. C'est la dernière fois que je veux parler des arbitres jusqu'à la fin de mon aventure à l'OM. Il dit même pas la saison. Hein. Bon, on verra s'il peut tenir sa parole. Des menaces ont été faites à l'arbitre, ses pneus ont été crevés, j'en suis désolé, j'exprime toute ma solidarité à ses proches. Tout ce que j'ai dit après le match, je le confirme, je crois en la bonne foi des arbitres. Mais selon moi, précise-t-il, l'arbitrage n'a pas été serein, il y a eu des erreurs éclatantes, on n'a pas perdu à cause de lui, mais son rôle a été déterminant. Bon, il souffle le chaud et le froid quand même, notre ami De Zerbi, c'est pareil, c'est une déclaration qui peut tout et rien dire, parce que bon, on n'a pas perdu à cause de lui, mais son rôle a été déterminant. S'il est déterminant, c'est qu'il a décidé du sort de la rencontre, c'est bizarre.
Je pense que Roberto De Zerbi veut clore le sujet en disant vraiment le fond de sa pensée, et en même temps, en essayant de clore à la fois le sujet pour passer à autre chose. Parce que comme il le dit, en fait, pour lui, s'il y a des erreurs d'arbitrage, donc il remet une couche sur l'arbitrage, justement, mais après, il dit, bon, allez, c'est terminé, soutient sa famille. Ce qu'on espère tous, c'est que, évidemment, tout le reste de la saison se passe bien et qu'il n'y a plus aucun incident envers les arbitres pour qu'il y ait un climat beaucoup plus détendu. Mais c'est le caractère qui parle, c'est l'ego peut-être. Parce que finalement, c'est sûr que Pablo Longoria, il a pris la lumière médiatique. Mais il ne faut pas oublier la réaction de Roberto De Zerbi sur le banc de touche, sur le carton rouge de Cornelius.
Alexandre, difficile hein, quand même de soutenir Longoria tout en reconnaissant que les propos sont inacceptables. C'est un exercice d'équilibrisme.
Oui, bah après c'est pas évident pour eux de communiquer aussi là maintenant. Là, toute déclaration sur l'arbitrage peut être interprétée de toutes les manières, donc de toutes les façons qu'il soit, négativement, de manière négative, de manière positive. Après bon, il y a eu aussi un fait ce soir-là, c'est que l'OM fait parler Ravanelli. Ravanelli aurait pu un peu apaiser peut-être. Il en a remis une couche. Et bon, après, est-ce que Ravanelli est le mieux placé pour parler d'arbitrage? C'est pas. Il y a débat.
Poser la question, c'est d'y répondre, cher confrère.
Ouais. Non, mais il y a débat aussi. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil pour l'époque avec Rabé Sandratana. Mais bon, tous les dirigeants, tout le monde, tous les joueurs auraient tout intérêt à se taire sur l'arbitrage jusqu'à la fin de saison. Après, en fin de saison, pourraient faire une interview, ils peuvent dire bon ok voilà, on a perdu des points parce que ceci, parce que cela, et refaire un vrai bilan. Mais là, dans le feu de l'action, on n'est pas dans la dernière ligne droite encore, mais quand même, il reste 3 mois, ils ont tout intérêt à prôner une union sacrée sur ce sujet, à ne plus parler et à jouer quoi, et à jouer aussi, parce que l'OM n'a pas joué à Auxerre, hein. L'OM contre un bloc bas qui attend et qui procède par contre, l'OM n'y arrive pas.
Hein. Merci pour la passe décisive, puisque Geoffrey Kondogbia était en conférence de presse également ce vendredi, il sera titulaire en défense. De Zerbi l'a annoncé donc face à Nantes. Bon, il a apporté sa sagesse un petit peu à ce débat pour tenter de l'apaiser. Quand tu perds de cette manière, tu es responsable de cette défaite, dit-il. La manière est un peu critique pour nous, c'est insuffisant, il faut se concentrer sur ce qu'il reste. Bon, il a appelé également nous autres médias, à la modération. C'est vrai qu'on en a beaucoup fait durant toute la semaine après la rencontre. Chacun fait son job, mais vous aussi, a-t-il dit en conférence de presse, dans cette salle, il faut avoir un rôle d'apaisement, c'est un climat qu'il faut essayer d'apaiser avec l'aide de tout le monde. Voilà, bon, une façon de se tourner... Se tourner vers le jeu, je te vois hocher de la tête.
Révis. Ça va être de notre faute, mais mais après, évidemment, il a un discours à faire passer et ça fait partie du jeu aussi. Il utilise tous les ressorts pour essayer de faire redescendre la pression et évidemment, il explique aux médias qu'il faut peut-être passer aussi à autre chose de notre côté. Ce qu'on peut comprendre, certes, mais on est obligé de traiter l'actualité. Et l'actualité de cette semaine en Ligue 1, je suis désolé, mais c'était cette histoire.
Ah, ça a marqué en effet toute l'actualité, comme tu dis, et ça a pris le pas sur le terrain auquel on va revenir dans un instant pour se projeter sur cette rencontre face à Nantes, avant justement pour faire la passerelle, le pont. Messieurs, on souhaite bien du courage à Stéphanie Frappard qui va officier lors de ce Olympique de Marseille FC Nantes dimanche soir au Vélodrome. Ce dont on peut d'ores et déjà convenir, messieurs, c'est que ça va être compliqué de siffler contre l'OM en cas de, voilà, de doute au Vélodrome, tout du moins jusqu'à la fin de saison.
Je sais pas. Moi, je sais pas. Ça, si on dit, enfin, si on dit que ça va être compliqué de siffler au Vélodrome contre
pas
l'OM,
plus que d'habitude. Saison,
c'est déjà compliqué au Vélodrome.
Mais c'est pour ça que je te pose la question de cette façon. Ouais.
Non, mais je veux dire, je pense que si on dit ça, c'est mettre en cause l'intégrité intellectuelle et morale des arbitres. Et moi, je crois que, en fait, mon avis personnel, c'est que le niveau de l'arbitrage en France, il est plutôt moyen. Voilà, il est moyen. Il faut pas non plus. Il y a de bons arbitres, mais il est moyen. Mais par contre, dire qu'il y a de la corruption sur les arbitres, enfin même Pablo Longoria était le premier à dire qu'il avait raconté n'importe quoi. Mais voilà.
C'est une façon de dire est-ce que le mal n'est pas déjà fait finalement. Une foule qui est rassemblée, elle va avoir tendance à siffler l'arbitre, quel que soit son nom, tu sais, à l'annonce du speaker.
Mais
enfin, il va y avoir un travail peut-être de
pédagogie. Franchement, en 15 ans de suivi de l'OM, en 43 ans.
On n'applaudit jamais le nom de l'arbitre.
Je n'ai jamais vu un arbitre applaudi. Enfin, l'arbitre, il est sifflé par. C'est normal. Enfin, c'est la vie, quoi. Bon. Non, mais c'est la vie d'un arbitre au Vélodrome, mais dans tous les stades de France en plus. Donc, c'est. Ouais. Je pense que les arbitres. Enfin, en plus, je pense que le choix de Stéphanie Frappard est un beau choix. Enfin, c'est le Vélodrome, quoi. C'est comme ça. C'est comme quand on joue à Galatasaray. C'est pareil. Enfin, voilà. C'est les arbitres savent très bien où ils mettent les pieds.
Ouais. Alex, j'ai envie de penser positif. Et pourquoi ne pas se dire que, vu toute la tension qu'il y a eu, maintenant arbitre au Vélodrome, quelque part, c'est une preuve, justement, de reconnaissance pour un arbitre. Ce que tu disais avec Stéphanie Frappard, voilà, ça, c'est plutôt aussi un bon choix. Mais c'est aussi une façon de toujours plus progresser avec l'ambiance, la tension qui peut régner, et puis surtout l'attente. Parce que là, on va pas se mentir, mais dimanche soir, la personne sur le terrain qui sera la plus observée, c'est Stéphanie Frappard.
Bien sûr, c'est elle. Pour les arbitres, c'est un vrai test d'arbitrer au Vélodrome. Et là, pour elle, c'est comme si elle arbitrait un classico. Hein. Parce que ce match-là, qui était un match lambda, entre guillemets, de la saison, est devenu un match où tous les caméras vont regarder comment ça se passe avec l'arbitre, comment ça se passe avant le match, est-ce qu'il y a des banderoles pour Pablo Longoria, est-ce que l'arbitre va être sifflé, est-ce qu'il n'y a pas un incident, est-ce qu'elle va faire une erreur, pas une erreur, est-ce que la VAR va intervenir, pas intervenir, parce que ça aussi, il y a un débat sur les interventions de la VAR, mais ça, c'est depuis que ça a été créé. C'est sûr que pour elle, je pense que c'est une chance pour elle. Si elle fait un bon match,
c'est une exposition.
C'est une exposition et c'est une exposition de laquelle elle peut sortir encore plus grandie, quoi. Donc je vois pas. Je pense que c'est un beau choix. Après, si je dis que c'est un beau choix aujourd'hui et qu'elle fait un mauvais match dimanche soir, les supporters diront qu'il a raconté n'importe quoi lui. Mais bon. Je pense que c'était le meilleur choix sur ce match-là.
Elle sera, en tout cas, et sa prestation sera évidemment, par la force des choses, très observée, peut-être encore plus que d'habitude. Olympique de Marseille, FC Nantes, c'est donc l'affiche qui clôture cette 24e journée de Ligue 1, dimanche soir. Je le disais, Kondogbia en défense centrale, Luis Felipe toujours pas prêt. Le FC Nantes qui s'est bien repris, victoire 3-1 face à Lens le week-end dernier, après en avoir pris 7 contre Monaco. Rémi le rappelait tout à l'heure, hein, l'OM a prouvé qu'il savait réagir après une contre-performance cette saison. Place au foot, mon cher Alexandre.
Oui, place au foot, mais l'OM a surtout un objectif, c'est la qualification en Ligue des Champions. Il ne faudrait pas, ce match à Auxerre, c'est 0 point. Et c'est mérité. Et il ne faudrait pas faire un nouveau faux pas, parce qu'il y avait un enchaînement de matchs là qui semblait abordable, mais arrive Lens, arrive le PSG. Donc après, ça peut derrière, ça revient. Et il faut savoir quand même, il faut rappeler, tout le monde le rappelle tous les ans, mais que la qualification pour la Ligue des Champions, dans l'état actuel de l'OM, elle est vitale. L'objectif, il est là, c'est qualification Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc. C'est pour ça, il est temps d'arrêter de tourner la page de ce débat, les arbitres, c'est frustration, injustice, ok, mais là maintenant il faut prendre les points et il faut aller chercher la qualification, et une fois que la qualification aura été acquise, ils pourront toujours reparler, faire un bilan de la saison au niveau traitement arbitral.
Ouais, et puis juste rappeler, comme tu disais, Alex, sur le sportif, hein, Paris c'est premier 59 points, deuxième Marseille 46 points, mais surtout Nice, troisième. 43 points, donc à 3 points de l'OM. Donc faire attention parce que les 6 points qu'il y avait d'avance avant Auxerre, ils sont perdus. Donc le matelas est moins épais maintenant.
Nice qui marche fort en ce moment, en effet, et qui est le troisième larron depuis la semaine dernière. Alexandre, avant de te libérer, la bonne nouvelle pour De Zerbi, c'est qu'au moment où Greenwood marque un petit peu le pas, on a un certain Amine Gouiri qui prend la lumière, adaptation express, rapide, réussie, appelons ça comme on veut. J'imagine qu'on parle beaucoup de lui aussi sur les terrasses à Marseille.
Il a un bon profil sportif, déjà. C'est vrai que, après, je dois avouer que moi, quand j'apprends que l'OM est sur Gouiri, je suis un peu pas sceptique.
T'es pas convaincu,
mais je me dis, bon, il reste. Non, je me dis, franchement, je me dis, c'est un super joueur de Ligue 1, 24 ans. Il a un énorme potentiel. Il ne l'exprimait plus vraiment, mais que par à coup, on se dit qu'à l'OM, il peut exploser. Voilà. Mais je me dis, c'est pas vraiment le neuf qu'on attend. Mais au final, quand on voit comment ça joue, avec De Zerbi et tout, il est là, il est présent. À Marseille, il y a un énorme engouement autour de lui et de Bennacer, parce qu'il y a une grosse communauté algérienne à Marseille aussi. Ouais. Et voilà, donc c'était un bon choix. Enfin, on fera le bilan aussi pareil en fin de saison, mais pour l'instant, les deux, là, c'est Bennacer, Gouiri, c'est deux bons choix de mercato de Benatia et Longoria au mois de janvier, parce que ce sont deux joueurs qui apportent sportivement, qui apportent aussi dans l'engouement, qui apportent dans la passion, et qui, sur le terrain, sont au rendez-vous. Après, on verra dans les semaines qui arrivent, mais Gouiri, effectivement, il a pris la place de titulaire très rapidement, et on voit qu'il est présent, qu'il est au rendez-vous, qu'il fait les bons appels. La dernière fois, De Zerbi le comparait à Higuain, enfin, il est là et il correspond exactement à ce que met en place De Zerbi.
Très versatile, il peut jouer sur tout le front de l'attaque, et il sait tout faire, il sait créer, il sait terminer. Il a déjà fait en quelques matchs plus que Eli Wahi qu'il a remplacé dans l'effectif.
Oui. Il est surtout très performant, c'est 2 buts et 3 passes dé avec l'OM en 4 matchs, donc au mois de février. Il est décisif toutes les 56 minutes, donc en fait c'est un but toutes les heures, quoi. Donc vu qu'il n'a pas marqué contre Auxerre, on peut peut-être espérer s'attendre, pourquoi pas, à un but contre Nantes.
Eh bien, pourquoi pas, je l'ai dans mon équipe MP, je ne vous cache pas, ça m'arrangerait, messieurs. En effet, la réponse, évidemment, dimanche soir, que t'indique ton flair de suiveur, la victoire, le retour de la victoire, Alexandre, j'imagine.
Oui, pour moi, comme tu disais tout à l'heure, l'OM ne perd pas après avoir perdu. Pour moi, dimanche, ça gagne. Et puis en plus, comme je disais, d'un match lambda, on en a fait une espèce de fête en disant là c'est l'union sacrée, il faut tout le monde derrière l'OM. Après oui, ce truc du l'OM contre seul contre tous, de temps en temps ça marche. Ça marchait à un moment donné, dans les années passées, ça a fonctionné parfois. Là, c'est... Mais il n'y a pas besoin de ça. Moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que l'OM est largement au-dessus des il y a le PSG. Il y a les autres clubs, oui, il y a Nice, il y a d'autres clubs évidemment, mais l'OM fait quand même partie des 4-5 meilleures équipes du championnat. Il y a largement la place de qualifier en Ligue des Champions. Il n'y a pas besoin de se créer des polémiques et de tomber dans la paranoïa. C'est ça qui me gêne un petit peu en fait. C'est sur cette saison, quoi. Voilà, je trouve que sportivement, l'équipe est là. De Zerbi a mis en place un jeu qui commence à plaire. Il y a des défauts, mais ça commence à. On sent vraiment. Bon, on l'a vu contre Saint-Etienne, même si Saint-Etienne était faible, on sent vraiment le fameux De Zerbi ball. On le voit. On le voit, les supporters l'apprécient, il n'y a pas besoin de tomber dans l'excès sur l'arbitrage. Les matchs, l'OM doit les gagner, et puis point final, quoi.
Bon.
Encore une fois, avoir une pensée positive, mais et Alex, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que l'année dernière, au même temps, c'était Gattuso qui était viré, en tout cas qui partait du club. On se retrouve avec Jean-Louis Gasset, et puis forcément un jeu pas très chatoyant. Donc voilà, là aujourd'hui, l'OM est deuxième du championnat avec un jeu attrayant. Donc aussi remettre les choses en place, quoi. Dire que cette saison actuelle est loin d'être mauvaise.
Toujours se retourner derrière son épaule.
Saison.
Exactement.
C'est une bonne saison. Il faudrait pas la gâcher.
Exactement. Et puis le rôle de Calimero, ça convient pas à un club de la dimension de l'OM. Petite info en ce vendredi, donc 28 février, les fans de l'OM qui ont affiché autour de la commanderie leur soutien à leurs dirigeants, tous sanctionnés, on le rappelle, hein, donc par la commission de discipline.
Benatia, 3 mois, il me semble, et puis Pablo Longoria, 15 matchs.
15 matchs, on le rappelle, fin de la suspension le 21 septembre prochain, ce sera après la quatrième journée de Ligue 1 de la saison prochaine. Soutien à Pablo, Mehdi et Fabrice Fabrizio ont affiché les supporters phocéens via une banderole donc installée à l'extérieur de la commanderie. Le vrai courage, ajoute-t-il, c'est de persévérer malgré les obstacles. Tout un programme.
Le clin d'œil de l'histoire, ce serait que la cinquième journée du prochain championnat soit au CER Marseille ou Marseille.
À la Baie des Champs, évidemment. Merci beaucoup, Alexandre Jacquin, d'être venu partager ton expertise et ton suivi, ton quotidien de suiveur de l'Olympique de Marseille. On travaille sur un papier pour les copains de la Provence avant cette rencontre.
Oui, bah là c'est un peu le retour au jeu, comme là, hein, c'est l'apaisement, le retour au jeu, et on passe à autre chose maintenant. Voilà.
On passe à autre chose, ce sera donc...
On a parlé de Longoria toute la semaine, donc là, il faut passer à autre chose.
Voilà, et bien, 20h45, Olympique de Marseille, FC Nantes, l'affiche de clôture de la 24e journée de Ligue 1, le retour du foot, enfin, dans l'actualité marseillaise. Merci beaucoup, Alexandre Jacquin, merci beaucoup, Rémi Dumont.
Merci, Simon, merci à tous.
Merci aux auditrices, aux auditeurs, bonne semaine et bon foot. Ciao.
RMC, After Marseille.